dans ce texte exactement? Je sais que c'est une deuxième version déjà, hein, parce que la première n'avait pas obtenu l'aval des parlementaires.
Donc ce qui est interdit, c'est le fait d'avoir une utilisation inappropriée des écrits ayant un fort contenu religieux en lien avec des communautés religieuses établies et reconnues. Et de fait, le champ du texte a été restreint puisqu'ont été sortis par rapport à la proposition initiale déjà tout ce qui n'était pas les écrits, mais qui était aussi les objets à connotation religieuse. Donc on peut porter atteinte à autre chose qu'un écrit. Que seules les églises établies, reconnues, verraient leurs textes en définitive protégés par la loi, les autres ne bénéficieraient pas de ce niveau de protection. Il a été aussi précisé que les œuvres artistiques qui pourraient avoir un côté offensant, mais pour lequel le caractère offensant ne représenterait qu'une partie de l'œuvre en définitive, ne tomberait pas sous le coup de la loi. Et il est dit également que cette loi sera réévaluée au bout de 3 ans. La question, c'est souvent celle de la proportionnalité par rapport au trouble à l'ordre public. On voit que là, en l'occurrence, on n'est pas sur cette question-là. Ce qui est mis en avant, c'est bien la nature du document et pas, en fait, la nature de l'atteinte portée à l'ordre public.
Vous diriez que la nouvelle version, elle est un peu édulcorée, qu'on a voulu faire plaisir aux pays musulmans ?
Vous avez raison, la nouvelle version a été édulcorée par rapport à la première, parce que la première était considérée comme une atteinte extrêmement forte à un certain nombre de libertés. Donc là, on tombe sur un texte qui est un texte de compromis, sur lequel on essaye de ménager en définitive un peu les différents acteurs, en intégrant des points de vue qui n'avaient pas été très bien appréhendés à l'occasion de l'élaboration de la première version de la loi. Alors, assurément, le sentiment de la menace est élevé. Donc oui, c'est motivé quand même par un sentiment de la menace. Il y a peut-être la volonté de vouloir accommoder. Mais pour le coup, c'est vrai que le choix danois est intéressant et la comparaison avec la Suède l'est d'autant plus que finalement, on a deux pays qui sont placés dans des situations qui sont assez proches et qui décident d'emprunter deux chemins différents. Ça démontre qu'il n'y a pas une évidence en soi du chemin qui est emprunté par tel ou tel pays.
Alors les Danois sont très attachés à la liberté d'expression. Comment ils réagissent face à ce projet de loi ?
Il y a eu des oppositions qui ont été exprimées, venant un peu de différents types d'acteurs, des acteurs religieux, des acteurs de la vie civile, y compris d'ailleurs de la police elle-même à la base. Maintenant, c'est la pratique qui va aussi être déterminante. Le gouvernement est conscient du caractère très sensible en définitive de ce texte. Il est certain que cette loi a vocation à être appliquée, parce que les atteintes à l'ordre public sont nombreuses, parce que le Danemark, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est la terre d'élection de Rasmus Paludan, qui régulièrement continue à organiser ce type de manifestations. Est-ce qu'on aura une majorité des Danois qui supporteront le texte ? La réponse viendra sans doute de la manière dont il sera mis en œuvre et des conséquences que ça aura sur la société danoise. Si les Danois constatent que ça apporte un retour à l'ordre, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir une majorité qui les soutienne. Si ça n'est pas le cas et qu'en définitive, les Danois auraient l'impression qu'on aurait sacrifié de la liberté au nom d'autre chose, je ne suis pas certain que la loi resterait en application telle qu'elle a été rédigée, mais telle qu'elle n'a pas encore été adoptée. Donc c'est pour ça qu'on est en train de parler d'un texte qui est un texte encore intermédiaire.
Mais est-ce que vous êtes étonné par ce choix de légiférer du gouvernement danois ?
Effectivement, le Danemark, c'était le pays des caricatures. C'est un pays qui s'est retrouvé très tôt, très en pointe sur ces questions de liberté d'expression et respect, en fait, de la conscience religieuse, de la liberté de culte. Ce texte marque une évolution par rapport à la position danoise qui avait été celle justement de mettre vraiment l'accent sur la liberté d'expression plus que sur le respect de la croyance religieuse. C'est un texte qui est porté par un parti social-démocrate qui a connu une inflexion très forte sur ces questions d'intégration, d'immigration et qui aujourd'hui adopte une posture qui est plus radicale que les formations politiques de sa famille actuellement dans le reste de l'Europe. Et c'est d'autant plus intéressant que si on prend un point de comparaison qui est celui de la Suède, l'extrême droite se fait aujourd'hui le chantre de la liberté d'expression contre toute prise de position visant à restreindre dans l'espace public l'expression et notamment le fait de brûler des Corans. Donc on a une sorte un peu de presque d'inversion des positions politiques entre les formations qu'on pourrait avoir du mal à appréhender si on ne suit pas au quotidien ce qui se passe dans ces pays.
Et on précise encore, ces 4 derniers mois, 483 autodafés du Coran et drapeaux brûlés ont été recensés au Danemark. Cyril Coulet, merci, et merci à vous qui nous écoutez d'être ouverts.